à CFNJ, Lanaudière et compagnie. Édition de ce 28 septembre 2025. La mairesse de Notre-Dame-des-Prairies, Suzanne Dauphin, vient nous parler des 10 ans de l'offre culturelle dans sa municipalité. Vous pensez que les citrouilles sont petites dans nos champs cet automne? Eh bien, détrompez-vous! Josiane Cormier de la ferme Cormier vient remettre les pendules à l'heure. Une jeune adolescente de Sainte-Mélanie a lancé son entreprise à l'âge de 8 ans, l'Auralie Bro-Saint-André, vient nous parler de ses petits plaisirs. On rend un dernier hommage à l'ex-maire de Saint-Michel-des-Saints, Marcel Champagne, avec le témoignage de l'historien Gilles Rivet. En fin d'émission, on parle pizza napolitaine avec Cybèle Major de Waldo Peppers de Rawdon. Bien sûr, la chronique de Franck Chapdelaine et ses nouvelles de la haute Matawini. Et dans un tout petit instant, il fait son entrée d'ailleurs, les actualités avec Jacques Plante. Mesdames, messieurs, bonne émission!
Voici votre animateur, Michel Arnois.
Il est 8h06 minutes. Et bien, de mémoire d'homme, madame, monsieur, j'ai rarement vu un mois de septembre aussi magnifique, aussi beau. C'est incroyable. Je pense que je songe même dans les futures années à prendre des vacances en septembre. C'est incroyable la météo qu'on a cette année. C'est magnifique. J'aimerais vous parler sport un peu en ouverture d'émission. Troisième but de la saison de William Gosselin, qui a donné une victoire de 6-5 en prolongation aux Prédateurs de Joliette contre le Prime de Laval. Ça se passait vendredi soir. Les Prédateurs qui reviendront devant leurs partisans vendredi le 3 octobre contre les Panthères de Saint-Jérôme dès 19h30. On peut passer sous silence aujourd'hui le triste anniversaire. Ça fait 5 ans aujourd'hui, le 28 septembre, que Joyce Echaquan, cette mère Atikamek de Manawan, aura rendu l'âme dans des conditions dégradantes, il faut le mentionner, au centre hospitalier régional de la Lanaudière à Saint-Charles-Borromée. Et afin de souligner ce triste anniversaire, le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière organise une vigile ce soir. C'est important de le mentionner. Ça aura lieu entre 18h et 20h au Centre d'amitié autochtone de Lanaudière. Vous vous rendez sur le boulevard Sainte-Anne à Joliette pour participer à cet événement. La vigile est une occasion de se rassembler, de se souvenir et d'honorer la mémoire de Joyce Echaquan. Ah, avec son petit café, il vient de faire son entrée. On va retrouver
Lanaudière et compagnie. Actualité. Voici Jacques Plante.
Bon dimanche, Jacques Plante.
Salut Michel, salut tout le monde. T'as pas changé?
Non, j'ai pas changé. J'ai vieilli, mais j'ai pas changé.
Ben, c'est ça, mais tu le portes vraiment très bien.
Oui, volontiers. Il y a Québec qui retourne à la table à dessin pour sa réforme du régime forestier. C'est la grosse nouvelle de la semaine, Jacques, qu'il faut en parler. Alors, si vous le voulez, Jacques, dans ce dossier, on va écouter un extrait d'entrevue accordé par le président, directeur général de la Scierie Saint-Michel, Jean-François Champoux.
Tu sais, l'industrie forestière, là, c'est le pilier des régions. C'est le pilier de plus de 900 communautés au Québec. Puis tu sais, si on prend Lanaudière, là, c'est important pour Lanaudière, là, en termes d'emploi, de tombée économique. J'ai des gens qui proviennent même de Montréal chez nous qui travaillent à Saint-Michel-des-Saints. C'est un moteur économique qu'on a besoin. Puis ça, je pense que le gouvernement néglige pas ce point-là. Puis je crois à une volonté d'y arriver, mais il faut que tout le monde laisse les émotions de côté, qu'on s'occupe de notre forêt pour qu'on réussisse à avoir une économie forestière en santé. Il y a beaucoup là, de problématiques au niveau là, de l'accessibilité de la fibre, de la forêt pour l'industrie. Il y a des discussions qui ont lieu puis qui doivent avoir lieu avec les Premières Nations, entre le gouvernement et les Premières Nations pour la collaboration en forêt. Puis tu sais, c'est pas la fin de notre industrie, loin de là. C'est un renouveau dans les discussions. Mais tu sais, c'est certain que la fenêtre de temps est vraiment diminué aujourd'hui, sauf que tout le travail qui a été fait, là, c'était pas un mauvais travail là, dans le projet de loi. C'était à la base mal expliqué, mal compris par les personnes aussi, parce qu'il y avait du bon là, dans le projet de loi aussi. Là. C'est, Je pense que s'il y a une volonté du premier ministre d'avoir un projet de loi, c'est encore possible.
On s'en va en campagne électorale, là. Le gouvernement, il va avoir les oreilles grandes ouvertes. Ils vont être conciliants. Ils vont être fins en tabarouette. C'est le temps de passer au bâton, là.
Oui, on va en entendre parler encore de ce régime forestier-là. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a dépensé beaucoup d'argent là-dedans, genre commission parlementaire, des rencontres, des réunions. On voulait faire des amendements cet été. Puis là, ça retombe à zéro, on recommence le processus.
Oui, puis tu remarques le fait aussi de redémarrer une session parlementaire, ça fait en sorte que les projets qui étaient déjà déposés tombaient comme caducs. Si tu veux les ramener au feuilleton, il faut que tu consultes les partis d'opposition.
Ça recule de combien de temps environ? Ça, peut-être ça ajoute une année, deux années peut-être?
Ça peut étirer longtemps, longtemps, là, tu sais, parce que, comme tu l'évoques, commission parlementaire, à moins d'y mettre le baillon, évidemment. Si Absolument. Tu mets le baillon, là, c'est pas là que ça donne... Puis ils sont majoritaires au maximum, là. On en a parlé, j'en ai parlé cette semaine, c'est jeudi, je pense, avec Claude. On parlait du dossier de Postes Canada qui va cesser la livraison quotidienne du courrier à domicile. Il y a quelque chose comme 400 000 foyers actuellement là, qui reçoivent encore du courrier à domicile. On veut arrêter ça. On veut ramener les fameuses boîtes là, parce qu'il y a eu un moratoire là-dessus.
C'est une mauvaise nouvelle pour les personnes âgées.
Ben effectivement, parce qu'on même le ministre en point de presse, il donnait pas plus de détails que ça. Ça peut être long, ça peut aller jusqu'à 9 ans, disait-il, pour installer des boîtes postales partout. Le courrier, on est habitué de voir passer les camions de Postes Canada toute la semaine. Là, il y a des journées, semble-t-il, qu'on va sauter.
Oui, ça va être trois jours semaine.
Exactement, exact. Quelque chose comme ça. Si je t'envoie une lettre là pour ta fête, là, j'aurais été en retard parce que là, il y a un délai d'au moins 2 jours. Là, on va peut-être passer à 3 ou 4 jours.
Tu sais, par la SAAQ, on enlève le permis de conduire à quelqu'un qui est trop vieux pour conduire.
Oui.
Il peut plus prendre son automobile,
exact.
Puis aller à sa boîte chercher son courrier. Quand il y avait la livraison chez lui, ben au moins il recevait son courrier. Je sais pas, il devrait y avoir des aménagements pour les gens qui peuvent pas comme ça aller chercher leur courrier parce que pour X raisons...
Et tu mets le doigt là-dessus, Michel, parce que c'est pas justement ces gens-là qui sont dans cette position-là qui vont être capables de se défendre. Ils seront pas écoutés au gouvernement. Donc, reste à voir au niveau, notamment du premier pouvoir politique, c'est-à-dire les municipalités, s'il y en a qui vont monter aux barricades.
Bon, il reste une chose qui est sûre, c'est que ça reste un gouffre financier, comme l'explique M. Lightbound.
Postes Canada est une institution qui mérite d'être sauvée. Et aujourd'hui, il faut être clair, c'est une institution qui a besoin d'être sauvée. C'est une institution qui a besoin d'être sauvée parce que depuis 2018, elle a accumulé des pertes de plus de 5 milliards de dollars.
Il faut dire que les Canadiens...
C'est ce qu'on appelle sauver les meubles, ça. Les
Canadiens qui reçoivent en moyenne que 2 lettres par semaine.
Oui.
Pas beaucoup, là.
Non.
Tu sais, puis la livraison de colis, c'est en chute libre également. Postes Canada qui perd 10 millions de dollars par jour.
Mais moi, je l'explique de façon très facile. C'est que quand on voit tous les autres services qu'on peut aller chercher, là, les Purolators, les Monsieur Lebrun de ce monde, il y a l'efficacité. Et Postes Canada n'est pas arrivé à être assez concurrentiel là-dessus. Alors, ils ont perdu le marché. Ça va être en tout cas une grosse job, M. Lightbound, de retrouver ça. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, ça.
C'est peut-être notre restaurant préféré à nous deux. Je pense qu'à toutes les fois qu'on se fait une petite réunion de production...
Oui, c'est vrai.
On se donne rendez-vous là-bas.
Oui.
Je parle, bien sûr, de la chaîne de restauration Benny et compagnie, qui songe à développer, on dit Benny & Co. maintenant, ils songent à développer d'autres marchés, genre que la presse qui a rencontré le directeur général Nicolas Filiatro, qui estime qu'il y a encore de la place pour de la croissance et que le groupe devrait arriver à maturité d'ici 2030. On parle d'une 20aine d'établissements supplémentaires qui viendront s'ajouter aux 80 qui existent déjà.
Qui sont déjà là. Mais tu sais, il y a un sentiment d'appartenance. Puis comme tu le dis, oui, on va là parce que oui, le poulet est bon, mais moi, je veux dire une chose. Le service, les gens qui sont là aussi. Parce que moi, là, c'est 50% de la job d'un resto. Si t'arrives puis que t'es servi, là, que la personne, là... Mettons que ça brasse beaucoup sur la table, moi, je suis pas prêt à retourner. Fait que j'ai besoin de bien manger, oui, que ce soit bon, mais le service est aussi extrêmement important. On peut le dire, puis je me permets de saluer nos amis de chez Benny, parce que oui, c'est vrai qu'on y va souvent, Michel. On est toujours bien reçu.
Et c'est abordable.
Oui, mais c'est toujours Michel qui paye. C'est pour ça qu'il dit que c'est abordable.
Juste préciser, Jacques, M. Filiatro, le directeur général,
oui.
a mentionné électronique, des franchises sont disponibles pour des opérateurs de l'extérieur. Et ça, c'est nouveau.
Ouais.
Parce qu'habituellement, les restaurants qui ouvraient, l'entreprise, d'ailleurs, s'est développée dans des villes où se trouvaient des membres de la famille.
Oui, exactement. L'expansion s'est faite là, oui.
On veut vraiment ouvrir à quelqu'un qui veut investir, là.
Et on en mange tellement qu'on devait peut-être penser à s'ouvrir une franchise.
Oui, 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 on ferait de l'argent. Du moins, on en dépenserait moins. Oui, oui, c'est ça.
On va parler maintenant des tarifs douaniers. C'est quelqu'un que je connais bien, puis il est précurseur dans ce monde-là. Les entreprises exportatrices de la région doivent faire preuve d'imagination afin de contrer les effets des tarifs douaniers imposés, comme vous le savez, par l'administration Trump aux États-Unis. Et c'est le président fondateur de Devolution. Ça, c'est une belle compagnie du côté de Lavaltrie.
Absolument.
Qui opère dans les logiciels. C'est, j'oserais dire, l'ami David Hervieux, parce que j'ai fait beaucoup de présentations avec David. Et voici ce qu'il a comme commentaire à nous dire là-dessus.
Chaque fois que j'ai des contacts avec des gens des États-Unis, les gens sont très sympathiques. Souvent, ils s'excusent même. Par contre, oui, la diversification, ça reste un défi, mais il y a tellement des beaux pays en Europe avec des gens accueillants. L'Australie, pour nous aussi, qui est beaucoup plus loin, un marché, les marchés de l'Amérique du Sud, c'est une opportunité de se diversifier. Je pense que on a peut-être été un petit peu paresseux en regardant nos voisins du Sud. Puis c'est peut-être le temps de ouvrir au monde.
Il en a des clients, lui, de ce côté-là.
Oui, puis, tu sais, comme David le mentionne, c'est que c'était toujours la facilité, même si là, les gens de la politique disent qu'il faut développer des marchés extérieurs, ça a pris du temps avant qu'ils le fassent et il fallait avoir un couteau dans le dos. Et comme il l'évoque aussi, et ça, bien des gens des entreprises avec qui on jase le mentionnent. Oui, les Américains sont un peu gênés avec nous parce que, dans le fond, c'est Trump qui brasse les choses.
Oui, il mène la baraque.
Oui, exactement.
On va parler des belles...
Tu sais, lui, as-tu remarqué, les Tylenol, ils comptent ça, hein?
Qui ça, Monsieur
Trump? Hein?
Oui, oui.
Il disait, mais moi, j'ai compris vite l'affaire, là. Moi, si j'ai mal à la tête, je prends une Tylenol, tout est correct. Lui, il peut pas en prendre, parce que ça prend une tête pour avoir mal à la tête.
Absolument.
Hein? Absolument.
On va parler des belles combines, qui est une entreprise qui appartient à Mme Bernèche, qui est reconnue pour ses outils d'organisation familiale. Ils sont en train de marquer l'histoire sur la plateforme de financement La Ruche.
Hey, c'est pas rien, là.
Mais écoutez bien ça. L'entreprise de Saint-Gabriel-de-Brandon connaît un succès sans précédent en devenant la campagne ayant collecté le plus grand montant à un temps record dans la région.
Mm-hmm.
Écoutez, ils ont lancé ça lundi lors du lancement public de la campagne. Il y a plus de 50 000 $ qui avaient déjà été recueillis pour la commercialisation d'un nouvel écran qui est dédié à la gestion familiale.
Ouais.
Eux, ils font ça des outils pour les parents.
Exactement. Exactement.
Et écoute, cette somme représente le double du montant initialement visé par les belles combines. Ça a permis à l'entreprise d'accéder à un financement de 25 000 $ du Fonds Impact de La Ruche, un programme exclusif à cette organisation, montant qui s'ajoutera au total récolté dans la communauté. Ben, bravo!
Oui, mais ça se poursuit, là. Vous pouvez aller donner un coup de pouce là-dessus jusqu'au 6 novembre 2025.
Ça complète nos actualités pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Jacques Plante.
Plaisir, et je te laisse terminer l'émission, puis après ça, si tu m'invites au poulet, tu me donnes la faim.
Ah, ben, c'est une excellente idée! C'est moi qui régale, comme d'habitude.
Salut!
De l'autre côté des publicités, on parle à Notre-Dame-des-Prairies avec la mairesse Suzanne Dauphin.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo!
La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Chez Fromagerie Victoria, nos déjeuners sont débordants en plus d'être à petit prix. Servis jusqu'à 11h en semaine et jusqu'à 13h les week-ends. Ça commence bien la journée. Fromagerie Victoria, 791 rue Gadoury à Berthierville.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou, j'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus. Il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant la liquidation totale, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. Procurez-vous un Rogue 2025 à un taux de financement aussi bas que 0% jusqu'à 48 mois. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Bientôt, au Festival de la galette de Sarrasin de Louisville, les cousins Branchaud, Grave aux portes, Laurent Saint-Martin, Francis de Grandpré et Éric Lapointe. Du 3 au 12 octobre, c'est le Festival de la galette de Sarrasin de Louisville. Billets au festivalsarrasin.com.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Sainte-Marceline-de-Kildare, La Noraine, Saint-Damien,
Rodden, CFNJ, 99.1, 88.9.
Les chansons américaines, on est bien capable de s'en passer.
De retour à Lanaudière et compagnie avec Michel Arnois.
Eh bien, cette semaine...
Lanaudière et compagnie, anniversaire.
Cette semaine, Notre-Dame-des-Prairies lançait sa saison culturelle avec une variété au carrefour culturel de l'endroit. Et Notre-Dame-des-Prairies célébrait par le fait même ses 10 ans de culture dans sa municipalité avec une politique là, qui est appliquée là, à la lettre. Et j'ai eu le plaisir d'en parler avec la mairesse Suzanne Dauphin.
Madame Dauphin, 10 ans d'activité culturelle, une orientation qui a vraiment été, qui a été prise par la ville, la municipalité, pour offrir à ses citoyens vraiment une offre qui est rare pour une municipalité de votre dimension. Et il faut le mentionner, là, à travers le Québec, là, c'est pas mal unique.
Oui, c'est unique, mais je dois vous dire que cette 10e année de programmation, là, c'est dû aussi à l'audace, à la détermination de tous les membres du conseil des dernières 10 années qui ont supporté la culture puis qui y croyaient vraiment, là.
Oui, c'est ça. Il y a eu des prédécesseurs, M. Larue, entre autres.
M. Larue avec la politique culturelle. Puis il y a eu plusieurs directeurs culturels qui ont participé aussi à cette programmation-là depuis 10 ans.
Est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut annoncer des nouveautés ou est-ce qu'il y a une volonté d'aller encore plus loin? Est-ce qu'il y a des grands projets sur le plan culturel qui s'en viennent pour Notre-Dame-des-Prairies?
C'est certain que la continuité de qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on offre, l'offre culturelle qu'on a bénéficie beaucoup à nos citoyens et nos citoyennes ainsi qu'à la population du Grand Joliette et même plus. Et bon, mais on veut continuer à donner, à offrir cette offre culturelle-là. On a Karine Marois, qui est notre nouvelle directrice culturelle. Elle, son mandat, c'est de l'amener plus loin, là. On est là pour l'aider, mais c'est le mandat de Karine.
Ça représente pour votre municipalité vraiment... vous mettez des gens à temps plein sur le dossier culturel, ce qui est pas commun.
Non, je pense que c'est pas offert à beaucoup de places, à beaucoup de municipalités ou de villes dans la province de Québec. C'est certain que l'offre de résidence, là, le professionnalisme qu'on offre à tous les artistes et acteurs ou écrivains qui viennent à Notre-Dame-des-Prairies, ça se voit pas beaucoup. C'est une offre exceptionnelle qu'on a.
Au cours de ces dernières années-là, si je vous demandais votre grand coup de cœur culturel, ce serait quoi?
Bien, il y en a eu plusieurs. Il y a eu les déjeuners littéraires qui ont été vraiment, vraiment intéressants où que beaucoup, beaucoup de spectateurs et spectatrices assistent à ces déjeuners littéraires-là. Il y a eu 5 balles dans la tête avec Roxane Bouchard et Je t'aime encore de Marie-Joanne Boucher. Ça, c'est des pièces qui ont attiré beaucoup. Puis en plus, ces pièces-là font voyage à travers la province de Québec, fait que c'est à travers le pays, fait que c'est vraiment, c'est ça, offrir une résidence culturelle à Notre-Dame-des-Prairies.
Revenons au déjeuner littéraire. Vous avez pris le pari d'organiser cette activité-là en sachant pas quelle serait la réponse des gens. Et moi, pour y avoir assisté, je vais vous avouer que c'était ça le comble. Et j'ai vu des déjeuners où il y avait une foule assez importante.
Oh oui, il y en a eu plusieurs. Je me souviens très bien de celui de Biz et celui de Rue Duplessis, l'auteur de Rue Duplessis, Jean-Philippe Plot. Ça, la salle était comble. Je pense que ça a été vraiment apprécié de toute la population.
Rappelez-moi, c'était le week-end, ça se déroulait.
Ça se déroule le samedi matin à compter de 10 heures. On offre des friandises, du café. Les gens aiment beaucoup ça.
Il faut le faire, là, rassembler plus d'une centaine de personnes à plusieurs occasions, un samedi matin pour un déjeuner littéraire, c'est de la science-fiction.
Non, mais c'est, comme je vous dis, c'est de l'audace, surtout de la part de, même de, du conseil municipal, mais surtout de notre bibliothécaire. C'est elle qui nous propose tous les auteurs et les livres. Fait que c'est très apprécié.
Oui, vous avez une belle équipe, un bibliothécaire qui suggère des auteurs pour les déjeuners littéraires. Quelle bonne idée. Eh bien, merci beaucoup, Mme la mairesse. Un bon 10e anniversaire d'Activité culturelle. Restez là, on parle citrouille dans un instant.
Lanaudière et compagnie. Agriculture.
Eh bien, il y a plusieurs reportages qui ont fait état au cours des derniers jours de la pénurie de citrouilles dans nos champs et surtout de la petitesse des citrouilles dans la récolte de cette année. Eh bien, vous allez constater que c'est pas toujours le cas avec cette entrevue réalisée avec Josanne Cormier. Elle est propriétaire de la ferme Cormier de l'Assomption. Bon, tout le monde dit, Mme Cormier, que les citrouilles vont être petites cet automne. Moi, je me rends compte que la ferme Cormier, c'est pas du tout vrai. Vous avez des belles grosses citrouilles.
Ben en fait, l'agriculture, on fait avec la météo beaucoup. Fait que d'un endroit à l'autre, d'une ferme à l'autre, ça peut être quand même très variable. C'est sûr qu'on entend plus parler de ceux pour qui ça va mal, parce que c'est souvent là qu'on explique un peu les difficultés qu'on a. Nous, pour les citrouilles, cette année, on n'a vraiment rien à dire. Elles sont magnifiques et sont très grosses.
C'est un endroit, la ferme Cormier. Vous avez... J'en reviens pas, c'est énorme comme présentation. Vous cultivez combien de citrouilles par année?
En termes de nombre de citrouilles, je pourrais pas vous dire parce qu'on fait vraiment plein de variétés, des petites, des grosses, puis on fonctionne à l'autocueillette, mais on cultive sur un 5 hectares de courges et citrouilles.
Donc, vous ne pouvez pas me dire le nombre, mais moi, j'en vois pas mal. Et vous avez également beaucoup, beaucoup de choix au niveau des courges aussi, je pense.
Ah oui, quand on part dans les achats de semences, il y a de quoi s'amuser en masse. Écoute, il y a de la variété qui existe là-dedans. Dans les épiceries, on voit les traditionnels, mais ça va vraiment au-delà de là. Puis avec le type de clientèle qu'on a ici, qui sont en mode découverte, qui sont en mode essayer des nouvelles choses, décorer avec l'originalité, bien là, on peut vraiment s'amuser avec plein de variétés différentes.
C'est vraiment un paradis pour les familles, je pense. C'est quoi l'offre exacte? J'avais un coin que vous avez aménagé, je pense.
Oui, bien en fait, nous, en ayant un kiosque de vente à la ferme, c'est sûr que tout ce qui est des activités d'aller faire de l'autocueillette deviennent vraiment intéressantes pour nos clients. Donc, une belle journée d'automne, on fait un tour de tracteur, on va choisir nos courges et citrouilles. Mais autour de tout ça, on a de quoi ajouter à la journée familiale. Fait que des coins pique-nique, des coins photos, des jeux dans les balles de paille, les animaux sont sur le site aussi.
Les animaux, parlez-moi-en. Les enfants sont très, très intéressés quand il y a des animaux. Vous avez quoi à leur montrer?
Bien, en fait, on n'est pas une ferme de production animale. Fait que les animaux qu'on a sur le site, c'est des animaux à la retraite qui nous sont arrivés un petit peu par hasard. Mais oui, effectivement, là, j'ai un cheval, j'ai des poneys, on a une vache Highland. Les gens n'ont pas besoin d'un zoo pour avoir du plaisir à les observer.
Comment ça a commencé, la ferme Cormier? Vous existez depuis quand et quand avez-vous pris la relève? Parce que je comprends que votre père était pas loin tantôt.
Mon père est toujours pas loin, effectivement. Je travaille avec lui depuis toujours. Dans le fond, quand j'ai terminé l'université, je me suis emmenée ici à temps plein. Mais moi, je suis la 8e génération. Là. Ça a parti avec un déporté d'Acadie qui a acheté cette terre-là en 1790, puis c'est resté dans la famille depuis. Puis mon père a parti beaucoup la diversification du maraîcher. Puis avec mon arrivée, on a développé un peu plus les produits transformés, tout ce qui est agrotouristique, auto-cueillette, vente au kiosque. Ça a pris de l'ampleur.
Vous avez étudié en quoi à l'université?
En agronomie.
Donc, vous êtes vraiment tombé dans la potion jeune, vous?
Bien, j'avais déjà mon idée en tête quand je suis rentrée à l'université quand même, mais c'est des études différentes. C'était pas nécessairement à ce moment-là clair si ça allait me servir ou quoi, mais j'ai décidé d'approfondir un peu mes connaissances là-dedans pour éventuellement revenir prendre la ferme.
Ce n'est pas que des citrouilles. Vous avez une variété importante de fruits et légumes.
Oui, les citrouilles, les asperges, les fraises, c'est nos cultures principales, mais on en fait c'est l'avantage de la vente en kiosque, c'est qu'on peut s'amuser sur plus de diversité avec à moins grande échelle, de la rhubarbe, du zucchini, tomates, concombres, poivrons, ail, on en fait un paquet.
Votre année a l'air de quoi, si on prend ça sur une base annuelle? À quel moment vous pouvez vous reposer un peu, vous?
Le repos est relatif. Là, on considère le repos quand on veut prendre des fins de semaine de congé. Janvier, février, c'est des mois un petit peu plus tranquilles. On est un petit peu plus dans de la planification, dans de la formation, mettre de l'ordre dans nos choses, faire des commandes. Mais dès le mois de mars, il y a des activités qui reprennent dehors. Puis jusqu'en décembre, ça va avec le marché de Noël de l'Assomption auquel on participe avec nos produits transformés. Sinon, à la ferme, les périodes vraiment intenses. 1er mai, on ouvre notre kiosque avec les asperges. Puis 31 octobre, on ferme avec les citrouilles, sinon c'est 17 sur 7.
Des projets à venir d'agrandissement ou d'ajouter des activités, vous avez quoi en tête?
Bien là, avec ce qu'on appelle la fermette Cormier, là, qui était de regrouper un petit peu plus nos activités familiales pour qu'ils soient accessibles en tout temps, c'était un très gros projet dans la dernière année, mais il va s'ajouter à ça l'année prochaine un jardin éducatif avec des vidéos d'éducation, des zones à accueillir pour les familles quand ils viennent nous rencontrer, accessibles en tout temps. Fait que c'est notre projet pour l'année prochaine.
La fermette Cormier, pour vous m'en dire un peu plus?
Bien, c'est ça. C'est les gens venaient pour l'autocueillette, admettons, de citrouilles, se promener dans les champs, mais ils revenaient admettons, au mois de juillet, quand les fraises étaient terminées, juillet-août, puis ils disaient, peux-tu aller profiter des champs? C'est pas évident pour nous, parce que quand on travaille avec les tracteurs, avec la machinerie, s'il n'y a pas de surveillance sur le site, c'était plus difficile de rendre ça accessible en tout temps.
Les assurances, puis tout ça.
Exactement, pour que ça se fasse d'une manière agréable. On aime ça faire un petit peu de ménage aussi pour les familles, mettre ça joli. Fait que la fermette Cormier, c'est une zone agricole qui va être accessible les 6 mois où notre kiosque va être ouvert.
Accessible pour le pique-nique, pour que les enfants jouent?
Ça. Le pique-nique, les enfants jouent, mais c'est ça, il va y avoir du jardin éducatif là-dedans. Donc, ça sera pas toutes les cultures qui vont être disponibles de l'année prochaine, parce que les asperges et la rhubarbe vont être implantées l'année prochaine, mais disponibles à cueillir plus tard. Mais l'année prochaine, j'espère avoir les tomates, les zucchinis, l'ail possiblement aussi. J'ai quand même quelques cultures que je vais essayer de rendre accessibles dès l'année prochaine.
Vous travaillez beaucoup avec les groupes scolaires en terminant. Parlez-moi là, de l'offre que vous faites aux écoles.
En fait, il y a des écoles qui vont venir pour l'autocueillette de citrouille, des garderies pour l'autocueillette de fraises, mais ce qui s'est développé un peu plus dans les dernières années, c'est les secondaires 1. On a 2 écoles secondaires qui sont accessibles à pied de distance de la ferme. Donc, les profs de secondaire 1, dans les cours de géographie, où ils parlent du milieu agricole, du territoire agricole, des pesticides, des travailleurs étrangers, de l'utilisation de l'eau, etc., ont développé l'intérêt de mettre les élèves en contact pour voir un petit peu plus concrètement sur le terrain. Fait que moi, au travers d'une visite de la ferme, j'aborde différents sujets qu'ils ont vus en classe pour leur permettre de le voir concrètement sur le terrain. Fait que je reçois une école au printemps, puis une école à l'automne. Chaque groupe vient un après l'autre pour visiter la ferme.
C'est important de sensibiliser les jeunes à ce que vous faites?
Énormément. Moi, je tiens beaucoup à l'agriculture. Je considère que comme société, quand on perd un peu les connaissances agricoles puis la préservation des terres, on se met vraiment en risque à long terme. Puis c'est long à acquérir la connaissance en agriculture. Fait qu'à chaque fois qu'on perd une famille agricole, je trouve qu'on perd de la connaissance qui est très importante. Les gens sont plus en contact avec l'agriculture. La population augmente, le nombre d'agriculteurs diminue, le nombre de personnes qui ont accès au milieu agricole pour apprendre un petit peu d'où viennent nos aliments est de plus en plus faible. Donc, dès qu'on permet des activités qui les mettent en contact avec l'agriculture, que ce soit par de l'autocueillette, que ce soit par des visites, que ce soit juste par aller cueillir une asperge directement dans le champ. Je trouve que c'est un bénéfice énorme. J'en entends vraiment beaucoup parler quand je permets de le faire.
De votre côté, il y a de la relève?
Bien, mes enfants sont encore jeunes, fin primaire, début secondaire. Les deux ont des intérêts, les deux sont géniaux, posent des questions, sont curieux. On évite de mettre de la pression. Il faut que ça vienne à 100% d'eux-mêmes, moi-même. Là, si j'avais eu de la pression pour reprendre la relève, je pense que plusieurs moments difficiles, j'aurais été tentée d'abandonner. Fait qu'on les laisse aller. Il y a de l'intérêt. On verra bien.
Madame Cormier, bonne saison des citrouilles.
Un grand merci à vous.
C'est la ferme Cormier de l'Assomption et c'est une belle activité à faire en famille, aller cueillir des citrouilles. Je pense que ça fait partie de l'automne, ça fait partie de l'Halloween, ça fait partie des plaisirs en famille.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les 3 jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Sainte-Mélanie, Marché Tradition Beaulieu. À Sainte-Julienne, Dépanneur Ultramar. Dépanneur Couchetard. Dépanneur La Porte Montcalm. À Radon, Dépanneur Provisoire. Dépanneur Radon, Le Marchand du Coin. À Chersey, Marché Chersey. Entrelac, Dépanneur Entrelac. À Notre-Dame-de-la-Merci, Dépanneur Amérique 125. À Saint-Donat, Dépanneur Bonissoir Oasis. À Sorel-Tracy, Dépanneur Bon Voisin. Dépanneur Guylaine. Dépanneur La Fontaine d'Eau. Liquidation Guertin. Club Vidéo Saint-Gabriel. Boutique pour animaux Danielita. À Massuville, Dépanneur S.G. Bardier. À Saint-Ours, Marché Tradition Arpin et Fils. À Contrecoeur, Marché de la Picoleuse. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Pour vendre votre propriété, 450-935-3228. Avec l'équipe Paradis, c'est simplement efficace. Courtier immobilier, proprio direct.
T'aurais pas une idée pour que je me fasse connaître sans me ruiner? Les gens veulent acheter local, mais s'ils me trouvent pas, ça sert à rien.
Tu te rappelles du Petit Bottin? Il est maintenant modernisé. En plus d'être distribué par La Poste, ils ont un site web bien référencé. Va sur notreentourage.ca. Inscris-toi.
Pourquoi BDC pour mon entreprise? Je sens que c'est le moment, là. Ça bouge, l'économie change. On me parle d'automatisation, d'intelligence artificielle, puis moi, je me dis, faut que je me lance. J'ai besoin d'un prêt, mais aussi d'un vrai coup de main, quelqu'un qui m'accompagne, là, pour vrai, puis qui va m'aider pour les prochaines étapes. Maintenant, là, pas plus tard.
Préparez la suite avec BDC. Obtenez du financement et des conseils adaptés à vos projets. Découvrez comment à bdc.ca/financement. BDC, financement, conseil, savoir-faire.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
CFNJ effectue en ce moment des essais de diffusion au 99.1 FM depuis son nouveau site d'émission à Saint-Félix-de-Valois. Si vous êtes victime d'interférences, communiquez avec nous au 450-404-2365, poste 226. Au 99.1-88.9 CFNJ, c'est Lanaudière et compagnie, avec Michel Arnois.
CFNJ 99.1.
Lanaudière et compagnie, entrepreneurship.
Toujours en direct du studio Joliette-Nissan. Écoutez, devenir entrepreneur, ça s'apprend. Voici l'histoire d'une jeune fille de Sainte-Mélanie qui a fondé son entreprise au petit plaisir que ça s'appelle, et ce, dès l'âge de 8 ans. Vous avez bien compris. J'ai rencontré Laura-Lie Brault-Saint-André la semaine dernière au Festival des artisans de Sainte-Marceline de Kildare. On parle à Laura-Lie Brault-Saint-André, qui est une jeune entrepreneur. Dis-moi, Laura-Lie, qu'est-ce que tu fais comme entreprise?
Je vends des plantes grasses, des plantes d'intérieur, avec des petits trucs à manger, exemple des meringues, des bonbons, avec des signets que je fais avec ma tante.
Tes bonbons, ils ont des saveurs particulières, je pense.
Oui, j'en ai plusieurs, dont des saveurs exotiques comme melon d'eau, ananas et framboise.
Tu as quel âge?
J'ai 11 ans.
Et tu as commencé ça quand?
Ça fait 3 ans.
Ça fait 3 ans déjà, et tu vends tes produits à quel endroit?
Comme ici au Festival d'artisan et plusieurs endroits comme dans mon village à Sainte-Mélanie.
Et puis, est-ce que beaucoup de tes amis t'encouragent dans tes productions?
Oui, certains, surtout de ma famille.
Ça t'est venu comment, cette idée-là?
J'ai toujours aimé faire des plantes et cuisiner, alors je me suis dit que je pourrais faire profiter aux autres ma passion.
Puis tu veux faire quoi avec ça dans l'avenir?
Ben, je sais pas encore, mais je me suis dit que ça pourrait m'aider pour, pour mon métier plus tard.
Penses-tu que tu pourrais devenir fleuriste, un truc comme ça?
Je sais pas encore, il y a beaucoup trop de choix pour que je décide maintenant.
Je pense que tu as le temps d'y penser pas mal.
Oui, vraiment.
Est-ce que c'est profitable? Est-ce que tu fais beaucoup de sous avec ça?
Oui, quand même. Ça dépend, s'il y a beaucoup de monde, s'il y a une belle température.
Ça, c'est surtout l'été, j'imagine, que tu vends tes produits?
Oui.
Dans le temps des fêtes aussi, peut-être?
Parfois, mais c'est pas arrivé vraiment souvent.
As-tu beaucoup d'aide des membres de ta famille, de tes parents? Est-ce que tu as des frères et sœurs?
J'ai pas de frères et sœurs, mais mes parents sont vraiment très présents pour moi.
Bon, c'est bon, ça. Est-ce que c'est toi qui leur en as parlé? Comment tu as décidé de partir cette entreprise-là?
Je me rappelle plus trop, mais j'en aurais parlé comme un projet vraiment à venir, puis finalement, ça s'est passé plus vite que prévu.
Quand même, ça fait 3 ans. Tu avais quel âge à l'époque? Tu avais 8 ans?
Ouais. Je me rappelle plus exactement, j'ai commencé quand, mais je pense que c'était aux alentours vraiment de 8 ans.
Et tu en produis combien, là, des plantes, des succulents comme ça, par année environ?
Environ, je sais pas tant, mais quand même une bonne vingtaine.
Une bonne vingtaine que tu réussis à vendre. Et les bonbons, ça monopolise la cuisine de la famille, ça, j'imagine?
Oui, vraiment, ça prend quand même longtemps à les faire, puis ça prend beaucoup de place.
C'est collant aussi, hein?
Oui, j'en ai des bonnes expériences de brûlure, c'est très chaud.
Ah oui, tu t'es brûlée, pauvre petite. Écoute, on va te souhaiter un franc succès. Les signets, c'est des créations artistiques que tu fais, les signets pour les livres?
Oui, dans le fond, c'est avec ma tante qui a eu l'idée, et moi, j'ai vend. C'est une des façons pour elle qu'elle va.
Bien, écoute, on va te souhaiter une bonne carrière d'entrepreneur. Un jour, tu auras sûrement ton entreprise, puis peut-être qu'on t'interviewera à nouveau à ce moment-là.
Merci beaucoup.
Dans un instant, on parle à un historien. Il s'appelle Gilles Rivet. Il vient nous parler de l'ex-maire de Saint-Michel-des-Saints, Marcel Champagne.
Lanaudière et compagnie, hommage.
Eh bien, cette semaine avait lieu les funérailles de l'ex-maire de Saint-Michel-des-Saints, Marcel Champagne. J'ai eu le privilège de parler de la carrière de M. Champagne avec l'historien Gilles Rivet, qui, incidemment, est aussi le gendre de Marcel Champagne. On parle avec Gilles Rivet. Qui est-il? Il est le gendre de Marcel Champagne, le disparu Marcel Champagne, qui a été maire de Saint-Michel-des-Saints et qui a été très impliqué dans sa communauté. Monsieur Rivet, voulez-vous me parler de Marcel Champagne un peu, de me décrire un peu quel personnage il était et ce qu'il a fait pour Saint-Michel-des-Saints?
Marcel Champagne, c'est une personne importante à Saint-Michel-des-Saints parce qu'il a été maire de Saint-Michel de 1975 à 87. Il a été conseiller de 73 à 75, de 97 à 2001. Et sous sa gouverne, la municipalité a bougé beaucoup. Il y a eu plein de choses qui se sont faites. C'est à l'époque où on peut commencer à naviguer sur le réservoir Taureau parce qu'il n'y a plus de flottage de bois dans le secteur du village. Alors lui, c'est un peu un visionnaire et puis il a vu le potentiel récréotouristique du réservoir Taureau. Alors, comme maire, il a installé la plage municipale, le développement du camping municipal. C'est lui qui a fait les premiers développements du secteur de la Pointe-Fine, de la Baie-Dominique. Il a lui-même construit un restaurant avec une marina, puis il a fait construire un gros bateau pour faire des croisières sur le lac Taureau. Je peux continuer pour la municipalité. Là. Il avait acheté une école pour déménager la municipalité dans ce secteur. Il a fait l'éclairage du village, il a fait les travaux d'assainissement des eaux, les premiers règlements d'urbanisme. Il a fait plein de choses. Il a été préfet de la MRC Matawini. C'est lui qui, avec Yvan Champagne, maire de Saint-Zénon, à l'époque, avait proposé le nom de Matawini pour la MRC au moment de sa création. Donc, c'est à lui et son confrère de Saint-Zénon à qui on doit le mot Matawini qui venait de renaître à l'époque.
Ça veut dire quoi, Matawini, savez-vous?
Matawini, c'est un mot qui n'existait pas vraiment. Qui existait, mais moi, j'ai fait beaucoup de recherches en histoire. Les gens qui me connaissent savent que je suis d'abord un historien. Et dans les textes de la colonisation de l'époque, les guides de colonisation, on parlait de Mantavesi, de Matavini, de Mantavini, mais j'avais vu juste une fois Matawini, parce que l'Église, les W, elle aimait pas ça. Ça faisait trop autochtone. Alors, c'est Jean-Claude Mirandette, au début ou à la fin des années 70 ou début 80, là, qui avait fait une comédie musicale sur la colonisation. Ça s'appelait le rêve matawinien. Et là, ils avaient fait renaître, ils avaient fait remis en place ou fait revivre le mot Matawini. Et c'est de là que c'était parti.
Marcel Champagne, il était aussi l'électricien du village, littéralement.
Oui, Marcel Champagne a été électricien pendant 30 ans. Petite anecdote, il y a 35-40 ans, j'étais avec lui sur une petite plage du lac Taureau, parce qu'avec la famille, il nous promenait beaucoup en bateau. Et il disait, « Gilles, regarde comme c'est beau ici. » Et puis là, ben, on était sur une pointe au bout de la rivière, au croisement de la rivière du Milieu et de la rivière Matawan. Puis il m'a dit, « Gilles, je te jure, un jour, on va bâtir une auberge ici. » Ben, c'est l'auberge du lac Taureau. Il a fait partie des promoteurs qui ont construit l'auberge du lac Taureau.
Quand même pas rien.
Donc, il a été beaucoup impliqué dans les affaires. Il était entrepreneur électricien, oui. Il a fait de l'immobilier. Il a été impliqué beaucoup aussi au niveau de plein d'organismes chez les Chevaliers de Colomb. Il a été président de la Chambre de commerce locale. Il a été sur les conseils d'administration des camps Colinac. Il a aidé au démarrage, oui, des jeunes entrepreneurs de la Haute-Matawinie il y a une dizaine d'années. Il était toujours présent partout, Marcel. Et
jusqu'à
surtout aussi un bon vivant.
Jusqu'à tout récemment... Il a été très, très impliqué dans les Chevaliers de Colomb, là, jusqu'à près de sa mort.
Jusqu'à très récemment, il a toujours participé activement. Il a été grand. Moi, je suis pas un chevalier de Colomb personnellement, là, mais je sais qu'il a eu le titre de grand chevalier, d'organisateur. Et il tenait beaucoup à soutenir à travers cet organisme-là les jeunes et à aider les autres organismes locaux aussi.
Quelle trace il laisse à Saint-Michel-des-Saints, Marcel Champagne?
L'amour de sa région, l'amour de l'engagement pour sa région aussi, son amour du réservoir Taureau, sa vision d'avenir, le tourisme, la générosité pour ceux qui l'ont connu aussi. Puis évidemment, ben, c'était un monsieur qui était un bon vivant, qui était toujours prêt à lever un bon petit verre de gin puis à chanter. Donc, c'est un personnage très coloré, Marcel Champagne.
Monsieur Gilles Rivet, vous êtes historien. On va sûrement se reparler sur des dossiers d'histoire bientôt. Je vous remercie d'avoir fait ce témoignage-là sur Marcel Champagne.
Ben, merci à vous.
Eh bien, tant qu'à être du côté de la Haute-Matawinie, on parle à Franche Chapdelaine dans un instant.
CFNJ, avec vous partout via l'application CFNJ sur vos appareils Android et Apple.
La route, la route, la route, l'écran, la route, l'écran, la route, la route, la route, la route, l'écran, le piéton qui traverse, le pare-brise qui craque, le piéton à terre, le piéton à terre, le piéton à terre. Vos yeux ne voient qu'une chose à la fois. Si c'est l'écran, ce n'est pas la route. Garder son attention sur la route, c'est juste la base. Un message du gouvernement du Québec.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. Pendant la liquidation totale, prenez le volant d'un Kicks Play S 2025 en location 60 mois à partir de seulement 76$ plus taxes par semaine, sans aucun compte initial. Chez Joliette Nissan.
CFNJ 99.1-88.9. Avec vous, partout dans la Naudière. De retour à Lanaudière et compagnie avec Michel Arnois. Cette chronique vous est présentée par la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie. Voici France Chapdelaine.
Moment béni d'entre tous, celui du dimanche matin où je vais rejoindre France Chapdelaine, un peu comme le fidèle qui accourt à la messe. C'est bien présenté, ça, non?
Que d'honneur ce matin.
Bonjour, France, comment vas-tu?
Ça va bien, et toi?
Ça va très bien. Écoutez, vous avez des mentions particulières à faire ce matin.
Ben, je voulais souligner les 20 ans de Jonathan Landreville à la SADC Matawinie. Il a commencé comme agent de développement, puis il est directeur général depuis quand même plusieurs années. Alors, la SADC Matawinie, qui est un organisme à but non lucratif pour aider au développement économique de la région. Donc, 20 ans, c'est quand même quelque chose.
Absolument. Et puis, il fait un beau travail, là, Jonathan. Moi, on a travaillé ensemble. Ils ont été les SADC de la région parmi les premiers à supporter la Naudière et compagnie. Et Jonathan Landreville a joué un rôle important là-dedans. Et c'est un gentleman, véritablement.
Oui, tout à fait.
Il y a quelqu'un d'autre qui a reçu un bel hommage dont vous voulez nous parler.
C'est Kathleen Chagnon, qui est conseillère en développement touristique et culturel chez Développement Matawini à la MRC de Matawini. Lors du gala des prix Excellence Tourisme qui s'est tenu cette semaine, organisé par l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, elle a reçu le prix Employée de l'année. Kathleen, c'est elle aussi une partenaire engagée envers les entreprises touristiques de toute la Matawini, fiable, efficace. Alors, on l'aime beaucoup, elle aussi. Alors, félicitations à Kathleen.
Ça fait du bien, ça, être nommé employé de l'année. Hein? Pas juste ce McDonald's qui font ça, là.
Non, puis c'est pour l'industrie touristique au Québec.
Vous voulez nous parler également de deux entrepreneurs de Saint-Michel.
Oui, c'est Madison Plante de Madison Studio, qui est encore toute jeune, qui est encore au début de la vingtaine, mais depuis qu'elle était toute petite, qu'elle voulait ouvrir son propre salon de tatouage. Alors, c'est fait. En juin dernier, elle a ouvert ses soins. Elle a des services de tatouage, de pose d'extension de cils, de spray tan. Puis, elle offre aussi le maquillage de fantaisie pour des fêtes d'enfants.
Bien, l'Halloween s'en vient. C'est pas une mauvaise idée, ça.
Oui, effectivement, ça peut servir. Mais donc, pour des fêtes, pour des festivals, des événements spéciaux. Et il y avait aussi Jade Delonchamp, qui est hygiéniste dentaire à Saint-Michel.
Ça, là, quand t'en as une bonne hygiéniste dentaire, tu la gardes parce que c'est précieux.
Oui, puis elle est ici depuis avril 2022, alors qu'on avait perdu notre dentiste à Saint-Michel. Donc, on est très heureux de l'avoir. C'est une hygiéniste qui exerce depuis près de 15 ans. Elle aussi, très sympathique, dévouée. Donc, on est très heureux de l'avoir. Puis, la clientèle a accès aux mêmes assurances que pour des services effectués par des dentistes. Puis la même chose pour ceux qui sont admissibles au régime canadien de soins dentaires.
La question spring de la semaine. Avec le beau temps qui perdure dans nos régions, c'est incroyable, l'été s'étire. L'activité plein air favorite de Franche-Chapdelaine, c'est quoi?
Ben, vous savez qu'on est des amateurs de pêche, mais il y a aussi le camping en roulotte.
Maintenant. Ah, le camping de luxe!
Le camping de luxe qui s'est ajouté à notre liste et qu'on a fait dans les deux dernières années au lac Taureau. C'est tellement beau.
Absolument. Donc, j'imagine que vous parlez pour vous et pour M. Chapdelaine.
Oui, pour les deux.
Alors, bon, ben, c'est le fun de faire la patate de sofa devant un feu de camp. Là. Moi, j'adore ça.
Oui, oui.
Merci beaucoup, Franche-Chapdelaine. On se retrouve dimanche prochain.
Merci, Michel. Bonne semaine.
Franche-Chapdelaine vous revient chaque dimanche avec ses nouvelles du nord de la Naudière. Une présentation de la Chambre de commerce de la Haute-Matawini.
La Naudière et compagnie. Relève entrepreneuriale.
Et on va parler pizza, tiens, pourquoi pas? Il y a peu de restaurants au Québec qui offrent la véritable pizza napolitaine. Voici l'histoire, madame, monsieur, d'une famille de Rawdon qui non seulement fabrique et vend ses pizzas à partir de la résidence familiale, mais qui en plus a formé ses enfants à devenir partie prenante de l'entreprise. Cybèle Major, elle est la propriétaire de Waldo Peppers de Rawdon.
Waldo Peppers, qui est une pizzeria maison, dans votre maison, vous allez me dire, à Rawdon, qui remporte un succès assez... racontez-moi, faites-moi un petit peu le portrait, l'histoire de l'entreprise.
Bien, en fait, moi et Waldo, mon mari, on est dans l'aviation. Et quand il y a eu la COVID, on a décidé de partir avec nos quatre enfants, avec notre savoir, évidemment, parce qu'on avait appris il y a plusieurs années à Rome à faire de la pizza napolitaine. Et à un moment donné, pendant la COVID, bien, comme ça ne reprenait pas l'aviation, on a décidé de faire un petit meeting familial qui nous a transportés maintenant aujourd'hui à offrir notre service en pizza napolitaine. Et c'est des produits qu'on offre, c'est très artisanal. Tout est fait à la main.
Vous avez même, je pense, acheté un four italien, là.
Oui, on a été obligé évidemment d'avoir accès à un four là pour produire nos pizzas, mais comme c'est fait tout artisanal, là, nos pâtes sont conçues pour aller dans un four à bois de plus de 800 degrés. Donc pour être capable d'offrir notre produit là efficacement, là, on avait besoin d'un four qu'on a importé d'Italie effectivement.
Bon, dès le départ, l'entreprise a remporté beaucoup de succès. Il y a des gens qui se dirigeaient à votre maison privée. Ça faisait même des fois de la congestion sur la rue, sur la petite rue à Rawdon.
Oui, ben on a passé dans quelques articles, là, dont la presse. Fait que c'est sûr que ça nous a transporté, propulsé en fait, avec une clientèle là, vraiment accessible. Là. Mais comme on est dans un quartier résidentiel, là, c'est une cliente automobile initialement qu'on offrait. Maintenant, par contre, on a transféré tout notre traiteur qui était dans notre maison initialement quand on a parti ça. Maintenant, on a transféré ça dans notre garage, ce qui fait que là, on peut recevoir nos gens à l'intérieur et puis on a nos produits là, artisanaux qu'on produit sur place et puis qu'on peut offrir là, quand les gens viennent nous voir.
Mais les gens peuvent pas manger dans le garage quand même.
Pas pour le moment. On regarde, on a des alternatives là, qu'on a en tête, mais pour le moment, là, on préserve notre petit réseau familial là, à l'intérieur.
Oui, je pense que, en tout cas, pour y avoir été à quelques reprises, c'est les enfants qui venaient me porter la pizza à l'auto. Ils sont encore impliqués, la famille, maintenant?
Oui, ils sont très impliqués. Même on a notre fille et notre fils qui maintenant sont au four avec nous. Donc, notre pizzaïolo et notre pizzaïola, on pourrait dire débutant, mais qui devient de plus en plus très, très professionnel, là, comme leur maman et leur papa. Et pour vrai, on est très fiers d'eux. Nos deux plus jeunes, eux autres aussi, là, ils travaillent sur le plancher à offrir du bon service à la clientèle parce qu'on aime notre clientèle avec beaucoup de... C'est comme familial, en fait, nous, chez Waldo Peppers. Et on a également nos beaux-fils et notre belle-fille qui travaillent là, avec nous.
Pourquoi ne pas avoir ouvert pignon sur rue dans un local commercial votre pizzeria?
Parce que moi et Waldo, on a repris en fait nos services en tant qu'agent de bord et pilote au sein de notre entreprise respective. Et ce qui fait que comme on a des horaires quand même assez variables dans l'aviation, bien nous, on a décidé quand même de maintenir notre traiteur ouvert avec la demande, évidemment, de nos clients qui nous mettaient un peu, pas de pression, mais je veux dire, qui nous laissaient savoir qu'ils voulaient pas qu'on ferme notre service de traiteur. Donc, on a décidé de jumeler, en fait, nos horaires de l'aviation ainsi que notre traiteur. Et c'est pour ça qu'on est ouvert toujours du jeudi au dimanche de 16h à 20h. Donc, si on n'est pas là, bien, on a aussi notre relève là, qui sont sur place. Et puis, de cette façon-là, bien, ça permet qu'on est encore ouvert et qu'on peut offrir de nos Waldo Peppers.
Donc, c'est 12 mois par année, mais du jeudi au dimanche, c'est ça?
Oui, voilà. C'est sûr que s'il y a des demandes là, pour des réceptions quelconques, événements mariage ou peu importe, c'est sûr que c'est accessible quand c'est sur réservation et qu'on peut nous appeler pour nous le dire d'avance. Et puis, normalement, on est capable de s'ajuster. Comme aujourd'hui, on fait partie du Festival des artisans de Sainte-Marceline. Ça nous fait plaisir, justement, d'y participer. C'est notre premier festival qu'on est là, sur place, et puis on est bien heureux.
Ça s'appelle Waldo Peppers. C'est à Rawdon. C'est de mémoire la meilleure pizza que j'ai mangée dans le coin. Merci.
Vous aurez compris, mesdames et messieurs, que l'entrevue avait été enregistrée la semaine dernière au Festival des artisans. C'est sur la 7e avenue à Rawdon, au 3153 7e avenue à Rawdon. Il y a également un autre endroit qui fait une bonne pizza napolitaine. Apparemment, on m'a glissé ça à l'oreille. Il s'agit de l'Albion à Sainte-Mélanie. Et je promets d'aller y faire un tour et de goûter à leur pizza de leur côté également. J'aimerais vous parler, en terminant... avant de terminer l'émission, de la fête des traditions vivantes de Saint-Damien, qui est un événement qui se déroule aujourd'hui, qui est gratuit, hein, incidemment, et on célèbre là-bas le patrimoine artisanal, culinaire et culturel, dis-je bien, de notre belle région. Écoutez, cette fête-là, elle est née de la fusion de deux fêtes de Saint-Damien emblématiques, celle des vieux métiers et celle des récoltes. Ça se déroulait en 2024 et la programmation de cette année met à l'honneur le thème de la noblesse du bois. Hein, vous savez que ça, c'est un matériau assez important et ça fait partie, bien sûr... la nuit ça a déjà terminé. Ben alors, allez faire un tour à la fête des traditions. J'y serai. Il y aura également ma collègue Marie-Pierre Beauparlant qui sera là-bas. On remercie la mairesse de Notre-Dame-des-Prairies, Suzanne Dauphin, qui est venue nous parler ce matin. Josanne Cormier de la ferme Cormier. Laura Libreau-Saint-André, qui nous parlait de ses petits plaisirs. L'historien Gilles Rivet, qui est venu
rendre hommage à Marcel Champagne, Cybèle Major qui vient nous parler de Waldo Peppers de Rawdon, un gros merci à Franck Chapdelaine et ses nouvelles de la Haute-Matawinie, Jacques Plante, un merci également à Marie-Pierre Beauparlant, collaboratrice à la production, François Morin et Régent Turgeon de la Salle des Nouvelles. Ici Michel Arnois qui vous donne rendez-vous dimanche prochain, 8h.